Marlène Engelhorn, ça vous dit peut-être rien. Eh bien, elle n'est autre que l'héritière du fournisseur de Zyklon B, ce gaz qui a massacré des dizaines et des dizaines, si pas des centaines de milliers de personnes dans les camps nazis. Et elle a annoncé, Marlène Engelhorn, qu'elle serait à bord de la flottille pour Gaza. On revient sur l'histoire familiale de cette militante et sur l'indignation que provoque sa présence sur cette même flottille. Et on en parle avec Shlomo Balzam, guide à Yad Vashem et historien de la Shoah. Il est au micro de Blaise van der Linden.
Marlène Engelhorn, héritière autrichienne d'une fortune bâtie sur l'horreur nazie, fait aujourd'hui parler d'elle pour son engagement pro-palestinien. Descendante de Friedrich Engelhorn, fondateur de BASF, l'une des entreprises impliquées dans la production du Zyklon B, elle participera à une nouvelle flottille humanitaire, la troisième à destination de la bande de Gaza. On en parle avec Shlomo Balzam. Shlomo Balzam, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le grand journal de Radio Judaïka. Alors, on a posé le début de cet entretien. On va d'abord repartir sur des bases historiques. Quelle a été l'importance de la création et de l'utilisation du Zyklon B dans la solution finale ?
Alors, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que celui qui a trouvé les sources du Zyklon B, enfin, ce qui va servir après, c'est un Allemand qui était d'origine juive, Fritz Haber. Il a reçu le prix Nobel en 1918 pour avoir développé l'ammoniac, et le Zyklon B est une de ces choses, pour réduire les nuisances contre les insectes nuisibles et ainsi de suite. Et ça a été repris. Alors, Fritz Haber, il était obligé de quitter l'Allemagne en 1933-34, quand Hitler est monté au pouvoir, et il est décédé juste avant de pouvoir partir dans la terre d'Israël. Mais celui qui a repris, c'est effectivement Friedrich Engelhorn, qui était un des patrons de la firme qui a rejoint IG Farben, qui ont fait, ils ont découvert qu'on peut se servir de ce gaz comme gaz sur le front. Il avait même été interdit au traité de Versailles qu'on ne pouvait plus développer ce genre de choses. Et ils l'ont développé et ils s'en sont servis au début pour purifier des vêtements ou enfin pour comme insecticide ou tout ça. Mais ça a été examiné et pris comme gaz pour tuer des gens et notamment les juifs. Alors le Zyklon B a été utilisé en grande majorité seulement à Auschwitz. Dans les autres camps comme Treblinka, Sobibor, Renno ou Belzec, on a utilisé le monoxyde au dioxyde de carbone. Mais à Auschwitz, on a fait d'abord des essais sur des prisonniers soviétiques en fin 41, début 42, et ensuite on s'en est servi. Donc la firme a eu beaucoup d'argent. Beaucoup d'esclaves en plus travaillaient pour IG Farben et ils en sont servis pour tuer plus de 1,5 million de personnes, dont 1,100,000 juifs à Auschwitz. Donc Marlène Engelhorn, elle tient sa fortune et elle a décidé de donner des sous, et elle donne des sous à toutes les causes qui sont pas tellement géniales, dont la cause actuellement.
On va revenir sur Marlène Engelhorn, mais pour terminer sur le Zyklon B, il est tragiquement radical. C'est au moment où les Allemands ont décidé d'accélérer cette fameuse solution finale qu'ils sont passés à l'utilisation de ce gaz.
Oui, parce que le gaz, au début, à Chelmno, le premier camp de la mort à Chelmno, on a utilisé camion à gaz. Alors on a utilisé un moteur avec le pot d'échappement qui rentrait à l'intérieur du camion, on mettait 100 à 200 personnes. Et ça marchait pas tellement. Alors on a refait la même chose avec beaucoup plus de quantité, avec un moteur diesel qui était à Treblinka, Sobibor et Belzec. Mais c'était très long. Les gens, pas tout le monde était mort quand on ouvrait les portes. Il fallait rajouter. Donc le Zyklon B a été une solution beaucoup plus rapide, mais il a été utilisé beaucoup plus tard et surtout à Auschwitz. Mm-hmm. C'est vrai, c'était d'abord un pesticide et un nettoyant enfin qui était assez efficace, très très fort et finalement on s'en est servi pour tuer des gens. Et c'est là-dessus que effectivement la compagnie a fait beaucoup d'argent et que cette famille là, Engelhorn, Friedrich Engelhorn, est devenue très très riche. Il y en a quelques-uns qui ont été jugés mais pas condamnés. Les industries chimiques de IG Farben, mais comme c'était pas lié directement, eux ils étaient pas liés directement à certains ont continué à vivre, mais ils ont fait une fortune extraordinaire.
Alors vous l'avez dit, hein, Marlène Engelhorn, elle a donc hérité de plusieurs dizaines de millions de dollars de sa famille. Elle n'a pas hésité à accuser Israël de génocide depuis quelques temps maintenant. Ce sont des mots forts venant d'une personne et d'une personne venant d'une telle famille. Comment est-ce que c'est vécu en Israël et puis surtout par les survivants de la Shoah?
Ben, ça fait beaucoup de titres dans les journaux. Ça, et bien sûr, les rescapés de la Shoah sont de plus en plus choqués. Et je donne, il y a effectivement des liens directs entre l'idéologie nazie. On a trouvé Mein Kampf en arabe dans toutes les écoles de Gaza. Et il y a un lien direct entre l'idéologie nazie et l'islamisme. Hassan el-Banna, quand il crée les frères musulmans au Caire en 1928, il se base vraiment sur l'idéologie nazie. Il y a même un plan du Mufti de Jérusalem, quand l'armée de Rommel, l'Afrika Korps, qui vient de Tunis pour battre les Anglais en Égypte et en Palestine britannique, il y a un plan du Mufti de tuer les Juifs de Palestine dans le nord d'Israël. Dans le nord en Galilée, au sud de la Galilée, et il y avait un plan comme ça. Et le Mufti était à Berlin toute la guerre pour faire la propagande en langue arabe, la propagande nazie en langue arabe. Il y a des liens très directs. Il y a même un site internet qui s'appelle Radio Islam Freedom Fighters, qui est à Stockholm, qui a été créé par un Égyptien, Ahmed Rami, qui était un copain de Forisson, du grand négationniste français, Forisson. Et si vous regardez le site aujourd'hui, c'est la propagande nazie, à côté bien sûr de la destruction d'Israël et de la propagande islamique. Donc il y a des liens directs, et ça nous inquiète beaucoup, sur l'influence de l'idéologie nazie sur l'idéologie islamique extrémiste. Et je vous ai dit, on a retrouvé dans les écoles de Gaza le livre Mein Kampf, traduit en arabe. C'est la langue dans laquelle ce texte-là est le plus traduit actuellement.
Mmh. Pour terminer, Shlomo Balzan, pensez-vous que Marlène Engelhorn, en participant à cette flottille, mesure le poids de son héritage familial, de son nom?
Ça, je peux pas savoir. Elle est sûrement pas. D'un côté, elle est idiote de prendre ces choix-là. D'un autre côté, elle doit bien comprendre qu'il y a quelque chose qui devrait gêner et qu'elle le fait sans doute en toute connaissance de cause. Je peux pas dire exactement, mais aujourd'hui, elle avait dit qu'elle voulait donner des sous à des causes justes. Et elle a choisi de soutenir une propagande anti-juive, anti-israélienne, de destruction totale. Et je pense qu'elle sait ce qu'elle fait. Et que malheureusement, les liens entre ce que j'appelle le nazisme et l'islamisme sont de plus en plus réels. Et ça, c'est inquiétant. Mmh. Et le montée de l'antisémitisme dans le monde... Le fait que la propagande marche comme la propagande nazie au début a pris petit à petit et a envahi les maisons et les journaux et les radios et ainsi de suite. Aujourd'hui, elle doit savoir ce qu'elle fait. Je pense que elle n'est pas non plus naïve à ce point-là. Donc je pense qu'il y a une raison très précise à sa prise de position actuelle.
On a souvent dit plus jamais ça, et le plus jamais ça est de plus en plus important ces derniers temps. Shlomo Balzan, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes guide à Yad Vashem, historien de la Shoah. À bientôt sur les ondes de Radio Judaïka.